Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Comics Weekly, épisode numéro 52.
Comme chez DC. Ouais, donc le dernier.
C'est...
Non, alors...
c'est l'épisode du multivers.
Tu l'écris comment? Moi je dis toujours multiverse, pour pas que je trouve ça sonne mieux quand même. Multiverse, ouais, même si on, même si ça se prononce pas comme ça.
À l'anglaise, ouais, le multiverse, mais...
Ouais, parce que...
Comment on dit l'univers?
Ouais, non, mais parce que le moi ça me fait penser... Des multivers, ça me fait juste penser à 150 000 vers de terre.
Voilà. Avec un seul corps, bien sûr.
Bien sûr. Le genre de truc qu'on n'aime pas avoir chez soi.
Comme une tête de médusa.
Voilà, un petit peu. Donc non, je... Voilà, je préfère dire multiverse. Bref, sur toutes ces indications passionnantes...
C'est toujours les petites minutes inutiles, mais essentielles.
Les petites minutes inutiles de Monsieur Nebunny.
Oui, parce que je suis pas le dernier à en faire.
C'était pour faire une référence à la minute de Monsieur Cyclopède.
Bien sûr.
Voilà. Eh bien, alors peut-être le numéro de la semaine.
Oui, on va commencer par le numéro de la semaine. Bah, c'est toi qui commence d'ailleurs.
Oui, donc 52. Alors, est-ce que je vais faire 52, enfin 52 numéro 52. Eh bien non, X-Men numéro 52 qui date de 1996. Donc on est, je crois, après Onslaught. Et juste avant la fameuse saga Opération Tolérance Zéro.
On est juste avant Onslaught, en fait.
Ah, on est juste avant. Ah oui, exact. Je m'en souviens d'ailleurs de sa première apparition, puisque cet épisode signe la première apparition de Bastion. Mark Waid au scénario, donc, de cet épisode, qui a créé donc le personnage de Bastion. Bastion qui va jouer un grand rôle, enfin un grand rôle, un rôle quand même assez important dans les années à venir, et puis surtout dans l'opération Tolérance Zéro, qui est l'une des grandes sagas après Onslaught.
Et puis actuellement en français, bien sûr, dans Second Coming.
Voilà, et puis bon, alors Bastion qui est, pour résumer, la fusion hein, entre le moule initial et Nemrod,
ouais.
Après être passé dans le seuil du péril. C'est compliqué dit comme ça, mais les fans comprendront.
Un personnage qui sur le papier est super balèze. Et après, dans les faits, quand on a vu Zéro Tolérance, un peu plus déçu, quoi.
Ouais. Non, mais... Oui.
C'est le blanc. Le blanc. Comme tu disais, on aurait pu parler de 52, puisque c'était la création du multivers, enfin, le retour du multivers chez DC. Mm. On aurait pu aussi parler de DC Comics Presents numéro 52, qui est la première apparition d'Ambushbug. Personnage totalement fou chez DC, totalement décalé. Mais moi, du coup, j'ai choisi de parler de Fantastic Four 52, première série, donc qui date de 1966. Stan Lee et Jack Kirby, et c'est surtout la première apparition du Black Panther.
Oui, Black Panther en français, mais bon, c'est pas grave, puisqu'on est en vrai.
Oui, donc voilà, enfin un personnage quand même relativement important aujourd'hui.
Ah, puis sa première apparition pète, hein, je me souviens, quand même.
Gros combat, oui. Gros combat contre les 4 Fantastiques. Il les invite, il leur envoie une machine, il les invite au Wakanda. T'as vu, j'ai dit Wakanda.
Wakanda.
Et puis finalement, il les met à l'épreuve avant de leur parler de ses origines, mais qui seront racontées dans le numéro 53.
Voilà. Mais quand même un personnage, je veux dire, même graphiquement, on dirait quasiment Batman, quoi, qui arrive d'un seul coup. Tu te dis, mais oula, qui c'est ce type?
Ah, complètement. Superbement mise en image. Alors, il y a aussi dans le numéro 52, après, avec les reprints, etc., il y a eu une première ébauche de ce qu'avait proposé Jack Kirby comme pour le costume de Black Panther, et c'était très coloré. Franchement, quand on voit ce costume qu'il avait proposé, on est bien content qu'il y ait eu le costume tout noir.
Ouais.
Parce qu'il y avait des couleurs de partout, c'était assez bizarre.
Et il s'appelait pas Black Panther, du coup, si?
Ah bah si, c'était la première ébauche pour le personnage.
D'accord.
La première ébauche graphique.
Black Panther, mais avec des couleurs multicolores.
Ouais. Qui, donc, Black Panther est actuellement, remplace Daredevil, qui est le Man Without Fear, et puis, qui bientôt va devenir American Panther, je crois.
Oui, alors, je ne sais
ça,
plus.
Ça devait être ça, nouveau nom.
American Panther, tiens, c'est bizarre, je sais plus. À force.
Ouais, c'est ce que tu avais annoncé dans les news il y a ça quelques semaines.
Oui.
Truc qui nous a fait bien rigoler, d'ailleurs.
C'est vrai, ouais. Vu le design et tout. Bon. On verra, hein, sans doute, ce sera très bien. On y croit tous.
Ou pas?
Oui.
Bah, enfin, l'avenir le dira,
hein. Depuis que j'ai dit ça, dit d'un fameux X-Men First Class, hein. Du coup, je ne dis plus rien, je ne sais pas, on verra. On va passer aux news. Pour les news, on commence par DC, avec la grosse nouvelle du jour, enfin pas du jour d'ailleurs, de la semaine. Jeff Jones a confirmé, il va quitter la franchise Flash après Flashpoint.
Ouais, alors là, c'est un gros coup de tonnerre.
Ouais, sauf si, attention, parce que c'est peut-être un truc de communicant, sauf si la franchise Flash change de nom.
Moi, je pense pas.
Et on n'a toujours pas eu la fameuse Flash Force, là.
Mais oui, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Et donc du coup, maintenant on le sait que ça ne sera pas Geoff Johns au scénario de cette série si un jour elle arrive.
Ouais.
Tout est encore possible, hein. Rappelle-toi, Batwoman, on l'a attendu pendant des années.
C'est vrai.
Et on l'attend encore. Mais bon. Et on a eu un numéro zéro au moins. C'est déjà ça. Et c'est vrai que le retour de Wally West en personnage pseudo principal, accompagné d'autres Flash, et de faire une espèce de brigade de Flash, c'était sur le papier super intéressant.
Ouais.
Bon, bah
Bah, une
voilà.
sorte de corps de flash, hein. Voilà.
Mais ça confirme un peu aussi ce qu'on pensait, c'est-à-dire que Flash ne reviendrait peut-être pas, enfin, on sait pas, mais on reviendrait peut-être pas après Flashpoint en tant que série régulière.
Ouais. J'ai envie de te dire, c'est peut-être pas plus mal, parce que Geoff Johns, c'est quand même Monsieur Flash. Et Flash, sans Geoff Johns, ça donne des trucs pas forcément super géniaux, quoi.
On a eu Mark Waid aussi quand même
Mark
qui
Waid,
connaît.
t'avais bien aimé, toi?
Ah bah Mark Waid a présidé à la destinée de Flash pendant des années.
Ah oui, non, mais par contre, quand il est revenu ces dernières années sur Flash, il avait fait quelques épisodes.
C'était un peu moins bien, mais c'était pas inintéressant, disons.
Ah ouais, non, moi j'avais pas du tout accroché. Mais enfin bon, les goûts et les couleurs. Et du coup, autre news, Geoff Johns, toujours lui, et Jim Lee vont faire une annonce le 11 juin, donc on en reparlera d'ici là, mais au sujet de Superman et de l'univers DC en général, et ça aura lieu lors du Hero Complex Festival.
Alors, c'est surtout sur le prochain film Superman. On
Certainement.
verra ce qu'il va nous annoncer. Mais c'est, oui, c'est surtout la suite, le truc qui va concerner le DC Universe au complet. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, est-ce en rapport avec bah,
Rumeur.
cette grosse rumeur qui voudrait que DC relance toute sa gamme de titres après Flashpoint, puisque Flashpoint numéro 5 sortira le 31 août. Et c'est d'ailleurs le seul comic DC qui sortira cette semaine-là. Rien d'autre n'est annoncé. Bon, que vont-ils nous faire après Flashpoint? Là, pour le moment, c'est le gros mystère. Vont-ils répondre à ça? Puisque bah, on sait que Jim Lee, lui aussi, a un poste important chez DC. Donc les deux gros personnages, il manque plus que Dan Didio et on aura le trio des têtes pensantes chez DC. Voilà, enfin, on a quand même deux personnages importants chez DC qui vont s'exprimer à ce sujet.
Mais ils vont arrêter les comics papier.
Oh,
C'est pour
je
ça
pense
qu'il n'y en
pas.
a plus dans la liste. Ils vont uniquement, maintenant DC va produire uniquement des dessins animés, des séries télé de ces personnages. Et des jeux vidéo, etc. Ça va devenir une industrie qui va porter ces personnages d'une toute autre manière et qui arrête les comics. Voilà. Non, je plaisante.
Ce serait énorme, ce serait un pari super risqué, mais je pense qu'ils le font pas parce qu'il y a quand même énormément de fric derrière, quoi.
Bien sûr, quoique, hein, finalement, les comics papier, c'est malheureusement peut-être ce qui rapporte le moins à l'industrie du comics, paradoxalement, à l'heure actuelle.
Ouais, mais ça rapporte encore, sinon ils arrêteraient.
Bien sûr. Et puis surtout, comment porter des personnages, puisque la base, c'est quand même le papier et les comics. Donc, réciproquement, hein, s'il n'y avait plus de comics, il n'y aurait pas les séries télé et tous les dérivés, quoi, en fait. Enfin bon, voilà,
Non mais
c'est très philosophique.
c'est super. Enfin, voilà. Moi, pour moi, cette annonce m'intrigue, quoi. Que vont-ils nous annoncer? Le 11 juin, c'est bientôt. Mais ouais, il reste, on va dire, à peu près 2 semaines, en grossissant un peu. Enfin, voilà. Que vont-ils nous annoncer? Est-ce que c'est la réponse à la question tant attendue de qu'y a-t-il après Flashpoint? Ou est-ce que ça va être complètement autre chose?
DC devient Marvel,
On
hein?
fusionne. On va tous être rachetés par Disney.
Autre news DC.
Oui.
Après Flashpoint, alors Rick Johnson, notre grand ami, nous annonce qu'il y aurait une série qui s'appellerait Justice League Dark. Alors évidemment, ça fait
En rapport
penser.
avec le fameux projet d'art dont tu nous parlais la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus.
Exactement. Mais j'y pensais même plus, dis donc. Mais oui, c'est forcément ça. C'est forcément en corrélation avec ça, effectivement, et bah, ça fait aussi quand même écho aux Dark Avengers, hein, quand même.
Oui, entre autres.
Voilà, donc bon, une Justice League Dark peut-être constituée de d'anneaux noirs, ou de je sais pas.
De vilains sur la rédemption, ou même de héros bah, qui, tel dans Flashpoint, on a pu voir le Batman un peu plus virulent, si l'univers de Flashpoint continue après Flashpoint, puisque c'est aussi une des rumeurs actuelles,
Ouais.
bah, un virage beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, entamé notamment avec Flashpoint, et donc une Justice League beaucoup plus sombre qui n'hésite pas à tabasser les super-vilains et à les jeter dans le vide, quoi.
Et peut-être une autre théorie, peut-être une équipe formée par Maxwell Lord.
Pourquoi pas?
Comme on sait que la Justice League International va reprendre incessamment sous peu, bah ça pourrait coïncider.
Ou peut-être une Justice League de l'univers Milestone.
Non,
Enfin, Justice League.
ça j'ai pas
Mais
envie.
enfin, ce serait un
Je
peu. ce serait un peu jouer sur les mots de dire Dark parce que ce sont des personnages black, quoi. Enfin,
Oui.
ça me paraîtrait un peu
Oui, ouais.
limite, disons.
Ouais, non, je pense pas. Je ne pense pas. Mais peut-être en rapport avec. Je pensais à autre chose justement quand tu disais l'univers Milestone, je pensais à Wildstorm en fait. Alors je
Ah,
pense pas que
pourquoi
ça aide.
pas? Peut-être une Justice League Authority?
Ouais, peut-être. Bah enfin voilà, y a vraiment, les solutions ne manquent pas, en tout cas.
On en saura plus dans les prochaines semaines, j'imagine.
Exactement.
Apparemment, ce serait une équipe créative de renom, mais pas de nom d'annoncé. Selon Rich Johnson, bien sûr.
On va passer.
Bah, il me restait une news, moi, chez DC. David Finch s'est expliqué un petit peu sur le retard qu'a accumulé Dark Knight dans une interview qu'il a donnée à Newsarama, je crois. Et il explique qu'il a eu des soucis chez lui, notamment, qui ont fait qu'il ne pouvait pas être autant concentré sur sa série qu'il le pouvait. S'est pas étendu plus sur les détails. Donc le numéro 3 est terminé. Normalement, il devrait bien sortir le 22 juin comme prévu. Et pour essayer de rattraper un peu le retard, il a demandé de l'aide à un de ses protégés, qui s'appelle Jay Fabok, pour le numéro 4 et 5. Alors Jay Fabok, on a pu le voir sur Soulfire Zero, ou sur Superman Batman numéro 70 et 71. Voilà, grosso
D'accord.
modo, ses travaux les plus importants. Il n'a pas fait grand-chose. C'est quelqu'un qu'il a rencontré lors d'un festival, qui lui a montré ses planches, et qu'il a décidé de prendre sous son aile.
Mais c'est un David Finch like ou pas du tout?
Apparemment oui, puisque bah, il l'a pas mal aidé, donc je pense qu'il a dû être beaucoup influencé sur son style.
D'accord. Au fait, ça va être un style super manga, tu vas voir. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc?
On verra en tout cas quelle aide va-t-il lui apporter. Est-ce que c'est de l'aide graphique pure, est-ce simplement de l'ancrage? Enfin, dire que l'ancrage n'est pas du graphique pur,
Ou est-ce
c'est
qu'il va l'aider à réparer sa maison, s'il a des problèmes comme toi, hein, de meubles en bois par exemple, qui sont infestés de verre?
Ouais. Mais en fait, apparemment, je pense que c'est des mythes alimentaires hein, que j'ai chez moi.
D'accord.
Puisqu'on s'est aperçu qu'on avait juste oublié une boîte de Ferrero Rocher dans un coin pendant un an.
Oui, d'accord, vous êtes comme ça, très bien.
C'est-à-dire qu'elle était dans le placard et on l'avait oubliée.
Ouais.
Mais
Ouverte?
non, mais enfin ils sont rentrés dedans quoi.
Quand
Quand
même.
même.
Ah, c'était. Ah, c'était. Ah, voilà. Bref.
Quand on a vu la boîte, on l'a achetée, effectivement.
Bien sûr.
On n'a pas testé manger le chocolat infesté de mythes.
Quel dommage, ça aurait été une expérience tellement tentante. Bon,
Ah,
allez.
c'est goûtu quoi, c'est du chocolat à la viande quoi.
Voilà. Je pense que là, s'il y a des gens à table ou qui nous écoutent en mangeant, ils seront aux anges. On va passer chez Marvel.
Oui.
Avec une rumeur propagée sur Twitter, Eduardo Risso, peut-être prochainement chez Marvel. Donc Eduardo Risso, le dessinateur de 100 Bullets.
À savoir quand même que cette rumeur est propagée par Axel Alonso. Donc voilà, c'est pas n'importe qui balance cette rumeur, quoi.
Non, c'est vrai. Donc bah en tout cas, moi j'aime beaucoup. Alors certains n'aiment pas, je sais plus si c'était Kiwi ou Huge qui me disait ça il y a peu de temps, qui me disait qu'ils aimaient pas du tout le style graphique de 100 Bullets. C'est vrai que c'est particulier, hein.
Ah oui, c'est particulier, mais ça colle bien avec l'ambiance, je trouve.
Ouais. Par contre, sur quoi pourrait-il travailler? Parce que c'est aussi la question que pose Alex Alonso. Sur quoi aimeriez-vous voir Eduardo Risso? Alors, Steve?
Mais je sais pas, mais surtout sur une série atypique, je pense. C'est ce qui lui conviendrait le mieux. Un truc purement mainstream. Bon, je vais donner des exemples à la con, mais un Spider-Man ou un X-Men, tu vois, je pense que ça lui irait pas forcément. Je verrais plus, alors, bien sûr, on sait que la série s'arrête, mais sur un truc comme Secret Warriors, tu vois, vraiment en marge, ce genre de choses-là, ouais, je pense que ça pourrait peut-être aller, ouais.
D'accord. Donc t'es sympa, tu veux lui donner des séries en fin de course.
Non, mais plutôt,
Non
tu
mais je
vois, des
plaisante.
séries à type de conspiration, un peu comme dans 100 Bullets, quoi, quelque chose
Ouais.
qui est beaucoup plus centré sur les personnages eux-mêmes et pas forcément sur des grosses méga scènes d'action. Même si c'est pas qu'il est mauvais sur les scènes d'action du tout, hein.
Oui, moi je le vois sur du street level caractère. Bah écoute, certes ça va peut-être te paraître bizarre, mais je le verrai quand même sur du Daredevil. Alors, ça ferait peur à certains.
Mais j'essaie d'imaginer en fait.
Ouais non mais voilà je pense que ça lui irait bien quand même. En tout cas ce serait intéressant d'essayer quoi sur un arc. On passe à un autre personnage, enfin toute autre chose chez Marvel. On a eu quelques petits éléments au fait sur le relaunch de Captain America.
Ouais, donné lors d'une conférence de presse.
à laquelle nous avons assisté, bien sûr.
Bien sûr.
en direct d'internet. voilà. Donc, Captain America, le relaunch, ça débute le 13 juillet, déjà, premièrement, important. On aura, dans le premier arc, on fera connaissance avec sa nouvelle Nemesis, un nouveau grand ennemi, en fait, de Captain America.
Selon Brubaker.
Oui, selon Brubaker. On nous annonce aussi le retour d'un personnage du Golden Age, tu m'as dit ?
Oui, un personnage qui serait hors du temps, un personnage du Golden Age, et que Brubaker qualifie d'un des plus bizarres.
Bon, bah alors faites vos jeux, hein, j'ai envie de dire. Et puis surtout, on va aussi savoir pourquoi, eh bien, Steve Rogers remet son costume, son ancien costume.
Et chose sur laquelle il n'a pas voulu s'étendre actuellement.
Voilà. Et il a dit que ça concernerait d'autres histoires qu'on aurait peut-être entre-temps, donc peut-être un rapport avec Fear Itself, ou d'autres choses.
Clairement, oui, c'est un rapport avec Fear Itself, puisqu'on sait très bien que Fear Itself, c'est Captor, quoi.
Oui, Captor. C'est un nouveau super-héros, Captor ?
Ça pourrait. Ça pourrait. Captor. Les aventures de Captor.
Oui, Captor le Castor. Allez, c'est en lien avec une review que tu vas nous faire, en plus. Plus ou moins.
Plus ou moins, oui.
Bon, on passe chez Image, avec aussi une grosse news qui est tombée cette semaine. Alors, c'est la saison des départs, hein, entre Jeff Jones qui quitte la franchise Flash. Eh bien, on savait que Greg Capullo allait quitter Owns, mais maintenant, Robert Kirkman annonce aussi son départ.
Et donc, ils partent tous les deux ensemble, voilà, en même temps.
Main dans la main, et du coup, il laisse Hunt tout seul. Alors, qu'est-ce que va devenir cette ancienne nouvelle série, j'allais dire.
Pas si nouvelle que ça, parce qu'ils partent au numéro 18, quand même. Oui. Donc, c'est pas si nouveau que ça, quand même.
Ouais. Mais bon, enfin voilà, Hunt s'en trouve vraiment perturbé.
Bah, le problème, c'est qu'en plus, il y a des retards.
Oui.
Qui sont prévus. Pas de sollicitation pour Hunt en juillet ni en août. Et on nous annonce une nouvelle équipe créative au numéro 20. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au numéro 19 ?
Bah écoute, à mon avis, ils vont renuméroter ça en numéro 18. Ou en numéro 19. Non mais voilà, ce sera pas le numéro 20, ce sera le numéro 19. Ils vont juste renuméroter les trucs, quoi. Forcé contraint.
C'est quand même franchement bizarre, quoi, parce que voilà, on nous annonce cette nouvelle équipe créative, et donc le numéro 19, c'est quoi ? C'est Todd McFarlane en solo ? C'est-à-dire que c'est un comic qu'on verra dans 2 ans et demi ?
Ouais. Avec une histoire, tu vois, qui va impacter la suite, mais on ne saura pas ce qui s'est passé.
Oui, voilà, c'est ça. Le numéro Turning Point, mais que tu n'as que plus tard, quand tu sais déjà ce qui s'est passé.
C'est tout un concept, en plus, il va dire qu'il y a la base.
Il déjà passé le Turning Point d'après, ouais. C'est horrible. Mais il nous avait déjà fait le coup, hein, dans ce mode.
Ouais. Bah, récemment, avec le numéro 200, hein, c'était laborieux, hein.
Bah, il nous avait fait le coup au tout début de la série, enfin, dans les numéros, alors je crois que c'était le 20-21, si je dis pas de bêtises, qui était sorti bien après.
Avec Houdini ?
Ouais. L'histoire avec Houdini était sortie bien plus tard.
D'accord. Une histoire sympa d'ailleurs, j'avais bien aimé moi.
Ouais, l'histoire était sympa, mais bon, nous en français on n'a pas vu la différence.
Non, du tout.
Mais les Américains l'ont vu puisque les épisodes étaient sortis, je crois, 6 mois après quoi.
Et ils n'avaient aucun rapport avec la continuité. Enfin, je veux dire, on pouvait les lire sans que ça pose de problème.
Bien sûr, mais bon, dans sa collection c'est quand même con de passer du numéro 19 au numéro 22.
Tout à fait.
Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai manqué ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu une info importante ? Puis bon, 6 mois plus tard, tu découvres le numéro, tu te jettes dessus, tu fais. Bon, même s'il sera sympa, tu auras tout ça pour ça, quoi.
Enfin bon, donc, ouais. Fin des news.
Ouais, mais surtout, sera-ce la fin de Hunt, finalement ?
Ouais.
Parce que sans Kirkman et Capullo, à moins d'annoncer une méga grosse équipe créative...
Dan Abnett et Andy Lanning.
Ils sont tellement partout.
Ils sont partout, oui. Voilà.
Ouais, mais c'est vrai que... est-ce que le titre pourra se relever de ce départ-là ?
Bah, Dan Abnett et Andy Lanning, en plus, je te dis ça totalement de but en blanc, mais rappelle-toi Nova... Hein, qui parle dans son casque là. Finalement, c'est un personnage qui, dans l'écriture, se rapproche quand même de Hunt.
Oui, c'est vrai.
Voilà. C'est vrai. Bon. T'as vu, hein, je te sors des trucs comme ça.
Non mais t'as raison, t'as entièrement raison en plus.
Dernière chose, un petit point Comic-Con.
Oui, bah oui. Cette semaine, on a appris la venue d'un auteur, mais non pas un auteur de comics, mais Steven Moffat,
ça
qui est le scénariste. Le scénariste, le scénariste de Doctor Who actuellement. Donc, c'est quand même un gros invité parce que les fans de Doctor Who sont très 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 nombreux.
Je t'en prie, Steve, un gros invité, enfin.
Oui, enfin, non, enfin, gros invité de renommée.
Je te laisse.
Tu me laisses me sortir de la merde là, c'est terrible. Steven Moffat est aussi
Moffat en plus. Tu vois. T'insistes en plus, tu persistes et tu signes.
Oh, je l'avais pas vu. Oh, c'est terrible. Je vais te faire donc une vanne de merde pour contrebalancer, c'est peut-être parce que je n'ai pas mes lunettes. Ok, je t'ai tué sans coup.
Oui, j'ai pas compris où est-ce que t'es la vanne. D'accord, tu n'as pas.
Non, parce que je te disais que je l'avais pas vu.
Ah oui, oh là là, oh là
Ah
là.
oui, je suis en forme.
Oh oui, en effet, oh là là.
Ouais, il est temps de prendre des
Non,
vacances.
fallait dire que t'avais pas de lingette pour les lunettes. Parce que tu n'avais pas vu.
S'embourbe.
Ouais.
Je sais plus comment m'en sortir. Donc, Steven Moffat est aussi le créateur et scénariste de la série Jekyll, qui était donc une version moderne de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, une série britannique, ainsi que la série Sherlock, qui est renouvelée pour une seconde saison.
D'accord.
Et
Ah oui, la
actuellement.
série Sherlock, celle qui se situe dans le temps présent, qui transpose le mythe de Sherlock Holmes, non, c'est pas ça?
Oui, je crois, oui.
D'accord.
C'est aussi le co-scénariste du prochain film de Steven Spielberg, Tintin, le secret de la licorne.
Dont parlait Nono dans le Comics Weekly 50. Tintin. Non. Nono, c'est un petit peu notre professeur tournesol à nous, au fait, hein. J'ai
Il va
entendu.
être ravi, je pense.
Oui. J'aurais même
C'est
pas
pour le
pensé
chapeau.
comme ça, mais
C'est pour le chapeau ou.
oui, c'est pour le chapeau, ouais. Puis même, il a un petit peu une tête de professeur tournesol, au fait. Là, il va être ravi, je pense.
Il va être super heureux.
Oui. Et bah, toi, tu es notre capitaine ad hoc, Steve, vu
Ah
comment.
mais je le revendique.
Ah oui, totalement. Et qui est
Sauf que
Tintin
moi,
Indomptable?
mes vulgarités sont des vraies vulgarités. C'est putain de bordel de merde.
Non,
C'est pas
Sam,
Midgard,
c'est
mais
Milou.
Midsommar.
Là, je suis en train de me faire tous les amis de la Terre.
Ah
Bon,
oui.
allez, allez, bon, commençons les reviews peut-être, du coup.
Oui, on va commencer la double review de
Mais
la
non, faut pas
semaine.
dire attends, maintenant,
Ah mais
rappelons
non.
le Paris
Mais
Nord
oui.
Villepinte, les
Oui,
dates.
bien sûr, du 30 juin au 3 juillet. Je ne sais plus où j'habite, hein, franchement,
Ah
avec
non.
cette avalanche de vannes,
Oui.
je suis
Donc,
perdu.
oui, Paris Nord Villepinte, 30 juin au 3 juillet. Venez nombreux, il y aura plein d'autres choses, il n'y aura pas que comment? Moffat?
Steven Moffat.
Steven Moffat. Il y aura aussi des auteurs comics, on a cité
Oh,
qui
plein de
peut nous
noms,
dire.
Brian Azzarello, Liber Mero, J. Scott Campbell, bien évidemment.
Salvador La Roca.
Voilà, et puis bien d'autres.
Just Leglo, Pascal Ferry, et puis d'autres. Et les gens de la Weep Agency, encore donc toute une ribambelle d'artistes.
Et ce n'est pas fini, bien sûr.
Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Donc là, cette fois-ci, on peut vraiment y aller.
Oui, la double review, c'est décousu comme programme, mais voilà, c'est du direct. Différé, mais c'est du direct quand même.
Au bout de 52 épisodes, ils savent.
Donc, la double review de la semaine, bah, c'est notre fil rouge actuel, le petit event que l'on aime à suivre, War of the Green Lanterns. Et vu que les trois parties de War of the Green Lanterns sont sorties cette semaine, eh ben, quoi de plus naturel pour nous que de traiter les trois parties?
Tout à fait. Ce n'est pas la fin, hein. Précisons-le quand même.
Non, la fin sera le mois prochain dans le prochain Green Lantern.
Donc c'est en 10 parties. D'accord.
Comme non, pas comme Sinestro War. J'allais dire comme Sinestro War, mais non, il y en a eu 11. Voilà, un truc qui fait plouf. Donc, Green Lantern 66. Jeff Jones au scénario, Doug Mankey au dessin, à l'ancrage, Christian Payne, Christian Lamy, Mark Irwin et Tom Nguyen. Et
Rien
j'en
que
fais
ça.
tomber mon crayon. Alors, les Green Lanterns terriens,
Ouais.
qui ne sont plus si green que ça d'ailleurs, hein,
Non, plus du
parce
tout
qu'ils ont
même.
tous, une couleur différente, Hal est orange, Guy est rouge, John est bleu, pardon, enfin indigo. Autant pour moi, et Kyle est bleu.
Et pourtant ils sont tous verts, vu la situation.
Exactement, oui.
Oh
Juste qu'il leur tombe
oh
sur la gueule. En fait, c'est le rire. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver aujourd'hui.
Non, ce serait trop.
Donc, à la fin du dernier épisode, ils avaient décidé de se séparer. Guy et Hal partant à la batterie centrale pour essayer de faire sortir par l'axe de la batterie et donc d'enlever cette impureté qu'il y a de nouveau dans les bagues et que le Green Lantern Corps en entier reprennent leurs esprits, tandis que Kyle et John vont aller essayer de sauver Mogo, qui est bah, lui aussi possédé et commence à tout détruire. Donc dans cet épisode de Green Lantern, on va plutôt suivre Hal et Guy, qui se rendent vers la batterie centrale, et qui se trouvent nez à nez avec tous les gardiens,
Voilà.
enfin ceux qui restent, et qui sont donc possédés par toutes les entités
Les émotions, en fait.
des émotions, voilà, c'est ça, exactement. Et donc on a un combat vraiment sympathique, où on se retrouve avec un Guy toujours sous le costume du Red Lantern, et Hal, toujours sous le costume. Mais je disais qu'il était orange tout à l'heure, non, il était jaune en plus, il est jaune. Suis-je bête?
Oui, il est jaune, la
oui,
peur.
Oui, non, j'ai dit orange, oui.
Oui, bah oui, non, mais c'est pas grave.
Alors, bien sûr, tous les deux, ce sont des costumes qu'ils ont déjà eu. Guy dans Blackest Night et Hal avec, quand il était Parallax. Il est habitué à manier la couleur jaune, mais ce sont pas leurs couleurs de prédilection, donc ils sont pas non plus super à l'aise autant que d'habitude, quoi.
Ouais.
Malgré tout, ils arrivent quand même à tenir tête à ces entités.
Oui, bah, de toute façon, que dire d'autre, puisque c'est quand même une grosse bataille, hein, l'essentiel de cet épisode. Bon, graphiquement, Doon Mankey, ça fait plaisir.
Oui, c'est clair.
Je trouve qu'il s'est amélioré. Enfin amélioré, qu'il a un petit peu modifié son style au fait. Il s'est un peu Green Lanternisé, un petit peu à la manière d'un... Bon, c'est peut-être un peu gros ce que je vais dire, mais San Van Siver, quoi. Il se donne un style un petit peu plus habituel à Green Lantern, je trouve.
Faut dire qu'on a les quatre différents encreurs qui jouent aussi.
Ouais.
Parce qu'on a quatre encreurs différents.
Exactement. Quatre couleurs différentes. Le corps des encreurs. Et il y a une autre partie quand même à cet épisode. Je pense que tu vas y venir de toute façon.
Ah bah oui, la partie sur Sinestro, puisqu'on rappelle que les différents membres proéminents de chaque corps sont tous enfermés dans ce fameux livre noir que contrôlent Lisa Drac, mais aussi Krona.
Ouais.
Et Sinestro a tellement de volonté qu'il arrive à s'échapper de son propre cauchemar qu'il revit. En fait, il revit... c'est moitié un rêve, moitié un cauchemar au final. Et il arrive à s'échapper de ça et à traverser le cauchemar des autres. Et il tombe notamment dans le cauchemar d'Indigo. Et là, on a une révélation monstrueuse, puisque Indigo, dans son cauchemar, est en prison.
Ouais.
Et elle lui dit, et c'est Abin Sur qui m'a enfermé. Donc, Indigo connaît Abin Sur.
Ouais. Mais comment?
Mais voilà, comment? Mais... Donc, Jeff Jones continue de nous poser des petites pierres sur ce corps qui est toujours le corps mystérieux, finalement.
Cela dit, on savait peu de choses hein, sur Indigo, jusque-là.
Bien sûr, mais donc ça veut dire qu'Abin Sur les a déjà rencontrés. Ça devient, enfin, voilà, quel a été le rôle d'Abin Sur, puisqu'en plus, elle le voit comme un ennemi. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Est-ce que finalement Abin Sur ne serait pas responsable, peut-être de façon détournée, de la création du Indigo Corps? Bah, les suppositions restent vraiment ouvertes, et il me tarde de savoir ce qu'il en est vraiment sur ce corps-là.
Ouais.
Ah, apparemment, Jeff Jones avait dit qu'il répondrait à cette question après le crossover.
Ah d'accord. Okay.
Alors, quand après le crossover, je suis pas sûr que ce soit l'arc juste après, mais on verra bien.
Bon, en tout cas, Jeff Jones est là pour durer, puisqu'il ne prévoit pas de partir, par contre, heureusement, de la franchise des Green Lantern.
Oui, il avait confirmé qu'il le resterait. Façon,
oui, qu'il avait encore, pour, je l'avais dit même, encore un an ou deux d'histoire en tête. Donc, il y a encore de bonnes choses à venir, qu'on se le dise. Ouais, j'imagine, hein, un bail, forcément.
Bah, ouais, on a quand même la révélation finale.
Ah, oui.
Krona qui dévoile enfin totalement son plan. Bon, on va pas dire quel est son plan.
Non,
puisque, ouais. Voilà. Mais ça implique bien sûr les lanternes terriens.
Ouais.
Et bah c'est un putain de plan quoi.
Oui. Mais je me demande comment ils vont faire pour le contrer là en si peu de temps, puisque finalement on arrive bientôt à la fin.
Oui. Mais le truc c'est qu'en fait moi ce qui m'a choqué, enfin c'est ce revirement de situation d'un coup quoi. Finalement ils font partie de son plan alors qu'on avait l'impression qu'ils cherchaient juste à les détruire depuis le début.
Oui bien sûr. Ouais.
Et pas du tout.
Oui au fait ils se servent de.
Ouais, voilà.
Totalement. Pour arriver à ses fins.
Enfin, franchement, je l'ai pas vu venir, comme truc, quoi.
Ouais, alors moi, par contre, je le sentais un peu, quand même, le coup de, non, en fait, je me sers de vous depuis le début. Mais bon. Faut voir. Enfin, moi, je suis impatient de savoir comment ils vont s'en sortir, quoi. Comment ils vont se retirer cette épine du pied. Le fameux corps. Le corps au pied.
On doute bien que...
Voilà.
Putain. Moi, je vais pas m'en relever de cet épisode.
Non, je pense que là...
On va passer à ta review solo.
Bah oui, oui. Alors ma première review solo, donc c'est le Green Lantern Corps numéro 60. Donc c'est la partie 8, hein, du coup, hein, la partie suivante. Alors le scénario est de Tony Bédard. Au dessin, on retrouve Tyler Kirkham et Bat à l'ancrage. Le diminutif donc de
Batman.
Bien sûr, Steve. N'importe quoi. Tu te racontes, mais n'importe
non,
quoi.
Ouais. C'est le diminutif de Batroc.
Ben voilà, exactement. Bon, alors donc. 8e partie, et là on retrouve deux autres personnages, Kyle Rayner, donc qui est le Green Lantern bleu, actuellement, le Blue Lantern. Qu'est-ce que tu dis?
Le Green Lantern bleu.
Oui, effectivement, c'est très con. C'est complètement con.
Je vais y arriver.
Non, là, je pense que c'est foutu. Il va falloir faire des heures sup sur celui-là. Le Blue Lantern est... comment il s'appelle ?
John Stewart.
John Stewart, qui est Indigo, hein, si je ne me trompe pas.
Et une lanterne Indigo, donc.
Voilà.
Pour continuer sur la même veine.
Pour continuer dans la même vanne, même. et donc, eux, eh bien, c'est comme avec les Pokémon, ils essayent de récupérer tous les anneaux verts, tous les anneaux de Green Lantern, donc, qui circulent, et de contrer Mogo. Alors, encore une fois, on a une... c'est pas tant une baston, quoi, c'est une espèce de combat un petit peu psychologique aussi, puisque John Stewart va employer une stratégie une stratégie de bourrin, hein, on va dire ça comme ça, puisqu'il se rend compte qu'en fait, quand Mogo a absorbé toute l'énergie noire, eh bien cette énergie noire n'a pas disparu, et elle s'est amalgamée, au fait, avec l'énergie verte, on va dire ça comme ça.
Cette révélation de... Où est la bague de Mogo, quand même, parce qu'on se demandait où était cette bague.
Oui, voilà, où est la bague de Mogo. Et on va pas le dire où elle est.
Non, mais c'était marrant de voir où il rangeait sa bague.
Exactement. On pourrait faire une blague. On va pas le dire. On va pas la faire. Mais une fin explosive.
Voilà. Oui, on peut dire ça comme ça.
Une fin explosive. Alors, un épisode, on en apprend moins, hein. Il y a pas autant de révélations que dans Green Lantern, puisqu'on suit essentiellement juste John Stewart et Kyle Rayner, mais quand même.
Mais c'est surtout cette fin qui est magistrale.
Oui, voilà, c'est ça.
Parce qu'elle est pleine de conséquences.
Voilà, c'est surtout la fin qui on se dit, oulala, où est-ce qu'on va? Et encore une fois, comment ils vont faire pour s'en sortir en si peu de temps?
Et bon, on va passer à la suite, du coup, avec le Green Lantern Emerald Warrior numéro 10.
J'ai même pas dit que c'était un bail.
Ah oui, c'est vrai qu'on n'a même pas dit que Green Lantern, de toute façon, les trois sont des bails.
Non, le celui que je viens de faire, c'est un pass total. Non, je plaisante.
Oh bah, ne serait-ce que pour ce final, voilà.
Oui, non, mais de toute façon, c'est un tout. Je veux dire, on peut pas se passer comme ça d'un numéro dans cette saga, ou bien alors on attend le trip bébé bien gentiment, si on a de la patience, parce que Dieu sait si c'est addictif quand même.
Ouais. Alors en plus, surtout que ce sera sûrement deux TPB, vu qu'il y aura 10 épisodes en tout, j'imagine que le prochain Green Lantern sera un double. Mm. Donc ouais, c'est clair que ce sera deux TPB. Donc la suite, c'est le Green Lantern Emerald Warriors numéro 10, Peter Tomasi au scénario, Fernando Pasarin au dessin, et je vais pas citer les encreurs parce qu'il y en a 6. C'est beaucoup trop.
Bon, voilà. Bah d'accord.
Voilà, je vais pas les citer. Fernando Pasarin qui s'améliore de mois en mois d'ailleurs. Enfin, je trouve ses pages superbes. Et honnêtement, j'ai même tendance à préférer le style de Fernando Pasarin à celui de Doug Monkey.
Ah oui.
Sur Green Lantern. Ouais, dans l'ensemble.
D'accord.
Mais bon, j'aime beaucoup Doug Monkey, hein, pas de problème, mais c'est vrai que à choisir, je préfère voir Fernando Pasarin sur l'univers GL.
Ok.
Voilà. Donc, ce final de Green Lantern Corps, c'est tellement énorme qu'on va vraiment pas le spoiler. C'est vraiment quelque chose à découvrir, c'est tellement monstrueux, que du coup, ça en distrait Krona.
Et, ah bah oui, oui, j'imagine.
Et Al et Guy, qui étaient retenus prisonniers par Krona, vont en profiter pour s'échapper.
Oui.
Ils vont profiter de la confusion pour tenter d'aller libérer Parallax de la batterie et donc finir leur plan initial. Ils récupèrent, c'est plutôt Kyle et John qui se téléportent directement sur leur gueule. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un choc frontal. Ils vont essayer donc tous les quatre d'aller détruire cette batterie, en tout cas la percer pour faire sortir Parallax. Ils ont l'aide de Gauntlet qui va leur expliquer comment arriver à percer la batterie parce qu'ils ont beau essayer tous les quatre avec leurs anneaux essayer de faire un rayon comme ils ont fait pendant Blackest Night, ça ne marche pas. Et donc, ils vont devoir enfiler des bagues supplémentaires afin d'avoir toutes les couleurs à leur point,
ouais,
sauf le vert, bien sûr,
d'accord,
pour essayer de percer la batterie. Et donc, on a, d'où ma confusion de tout à l'heure, un Hal Jordan qui revêt en plus de la bague jaune, la bague orange, et Guy qui se retrouve coincé donc avec le rouge et le violet.
D'accord. Juste,
il n'apprécie pas du tout.
Ah oui, bah bien sûr. Oui, c'est oui, ben oui. Ça va,
ça a à faire avec la force de l'amour.
Voilà, exactement. Mais bon,
finalement, lui qui est l'élément le plus central, puisque on sait très bien que dans l'ordre des émotions, la rage et l'amour sont aux antipodes, sont les deux émotions les plus fortes.
Et est-ce qu'on a le droit à des fusions de couleurs alors?
En fait, on a des demi-costumes comme quand Al avait la bague jaune, la bague bleue pardon, et la bague verte.
Et tu penses pas qu'un
moitié de costume.
Tu penses pas qu'un jour Jeff Jones ira jusqu'à faire des mélanges de couleurs pour créer des nouvelles couleurs?
Sait-on jamais.
D'un côté, mélange d'émotions.
J'espère qu'on n'arrivera pas jusque là.
Mais en même temps, ce serait l'évolution, je dirais, quasiment logique. Parce que comment va-t-il faire évoluer, il continue à faire évoluer sans cesse les corps. Et là, alors, bon, bah, j'attends de voir la suite, hein, avec impatience, parce que je vois pas comment ça va bouger encore.
Ouais, je sais pas, parce que moi j'ai peur qu'après ça nous fasse un peu trop Bioman, quoi.
Oui.
Bioman, Power Rangers et autres
consorts. C'est vrai, bon,
enfin
bon, on y
c'est
est quand
déjà
même
le cas.
Un peu.
Oui, c'est déjà le cas. Donc là, maintenant, des fusions de couleurs, voilà, quoi.
Ah
Si c'est
bah,
pour nous faire,
Homo Machine. Non, comment?
Ouais, enfin, tous ces trucs-là. Je pense que, ouais, bonne
mélange
nage
pas
de
le blanc
décolor
et les
stop.
couleurs.
Mais voilà. Un bon décolor stop et puis ça s'arrêtera là, quoi.
Voilà, c'est ça.
En tout cas, est-ce qu'ils vont réussir à sortir Parallax de cette batterie ou pas? Bah, la réponse dans le comic, là, je vais vraiment pas trop en dire parce qu'on a déjà dit beaucoup. On sait que voilà, vous aimez bien savoir aussi, mais là, si on en parle, on va aller vraiment trop loin et il y aura quasiment plus d'intérêt à lire ni le Green Lantern 66 ni le Green Lantern Corps 60.
De toute façon, après, il ira se planquer dans une guitare.
Alors là,
batterie,
j'ai pas compris.
Batterie, guitare.
Oui, d'accord, oui.
Oui. Mais oui, grosse blague. Encore.
Oui, mais oui. J'en suis tout retourné.
Non, on ne retourne pas.
Oh non, c'est dégueulasse.
Oui, voilà.
Bref, c'est un bail. Le final, encore une fois, est excellent. Et on se prépare donc à une baston finale mémorable dans le prochain Green Lantern. Et j'ai qu'une hâte, c'est lire le prochain.
C'est un double, le prochain?
Je pense, oui, je pense que ça va être un double. Ça m'étonnerait qu'il finisse son histoire sur 22 pages. Ça me parle. Si c'est sur 22 pages, à mon avis, ce sera un peu rushé.
Eh bien non, ce sera sur 12 en plus. Après, ce sera
en plus,
un backup.
C'est même pas 20, c'est même pas 22, c'est 20, puisqu'on est chez DC.
Oui, c'est vrai que en maintenant, plus. Depuis quelques temps, mais c'est bien, parce qu'on ne voit pas trop la différence. Hein.
Non, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Il y a beaucoup plus de dialogue, mais c'est vrai que ces trois épisodes, c'est une chose que j'ai vraiment appréciée, c'est que dans ces trois épisodes, on joue vraiment sur le fait que les Green Lantern terriens portent d'autres couleurs et sont affectés par ces émotions qu'ils revêtent finalement à leurs mains. On sent que ça joue dans leur comportement.
Ouais.
Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien mis en avant, que ce soit dans les trois épisodes, hein, que ce soit chez Jones, chez Bédard ou chez Thomas.
Non mais voilà, donc on attend la suite avec impatience et je suis curieux de voir ce que Geoff Johns peut encore nous préparer pour la suite.
Ouais, un super event au final, hein. On avait quand même franchement peur au départ et on est vraiment surpris de moins en moins.
Ouais, non, c'est vrai que j'étais sceptique et finalement ça reste toujours très très bon.
Je l'étais autant que toi, hein. Crois-moi, j'avais vraiment peur de cet event. Alors y aura-t-il des pertes?
Event qui dont le titre n'est pas si vrai que ça finalement, hein, quand même. Au final.
Oui et non, puisque finalement les Green Lantern se sont retournés contre les autres.
Ouais.
Et finalement ces quatre lanternes, alors ok, ils sont plus green, puisque ils ont été obligés de prendre d'autres couleurs, parce que là-bas il y avait des impuretés, et voilà, pour pas être contaminés, mais finalement c'est une baston entre Green Lantern. Parce que même Krona étant le premier Green Lantern,
c'est vrai.
C'est ni plus ni moins qu'une baston vraiment de Green Lantern, les uns contre les autres. Mais on s'attendait vraiment au départ, c'était vraiment dépeint comme un conflit entre Hal, Guy, Kyle et puis John. Et là, c'est pas forcément le cas, c'est vrai. Bref.
Oui.
Très bon. Puis on va passer à la suite.
On va passer à du Marvel, du coup, chez moi. Oui. Avec le Amazing Spider-Man 662. Au scénario, on retrouve Christensen Gage en collaboration, on va dire, avec Dan Slott. Mm-hmm. Rayleigh Braun au dessin et Victor Olazaba à l'ancrage. Et c'est la deuxième partie donc d'un arc où au fait Christensen Gage était le scénariste principal, où il confronte Spider-Man à la Avengers Academy, au fait où Spider-Man vient comme prof remplaçant, comme prof guest star, hein, à l'Avengers Academy, pour enseigner aux élèves tout simplement que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, et les Avengers Academy, ils sont bien placés pour qu'on leur dise quoi.
Mais tu nous en avais parlé rapidement du 661 la dernière fois, que tu l'avais lu et que tu avais trouvé ça très sympa.
Ouais.
D'avoir déjà Christensen Gage au scénario et puis même voilà que l'épisode était sympathique.
Ouais, alors
est-ce que la suite est aussi bonne?
Ben justement non, malheureusement en fait là c'est surtout un épisode de baston. Alors c'est simple, le scénario est tout bête, il croise Psychoman qui manipule leur psyché. Et du coup, la Avengers Academy se retrouve à affronter Spider-Man. Bon, alors, le combat est sympathique, il y a du gag, on ne sait pas trop comment Spider-Man va se sortir de cette, situation. Évidemment, on se doute qu'ils arrivent à s'en sortir, que ils reprennent leurs esprits. Et au fait, ce qui est surtout intéressant, c'est la toute fin où, grosso modo, Spider-Man est en train de dire que c'était un ratage complet, ce cours. Et là, pour les académiciens, eh bien, c'était la meilleure journée qui s'est passée depuis bien longtemps. Ils sont super contents d'avoir pu se bastonner comme ça avec Spider-Man, de s'être amusés comme ça. Enfin, eux, ils sont pas du tout choqués par ce qui vient de se passer. Et donc, Hank Pym souhaiterait que Peter Parker revienne plus souvent leur donner des cours.
Pitié, pas Spider-Man dans une nouvelle équipe encore.
Ouais, non, mais je pense qu'il reviendra pas souvent. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu décevant. Ça change pas du tout le statu quo de l'Avengers Academy. Hein. C'est vraiment histoire d'avoir un petit peu ces personnages là en dehors de leur titre. Et bon, bah ça fait pas du tout avancer l'intrigue principale dans Spider-Man, quoi.
Serait-ce un moyen pour redonner un peu plus d'exposition à une série en perte de vitesse? En tout cas, au niveau des ventes.
Mais oui, mais malheureusement, je pense que c'est le cas. De toute façon, Avengers Academy, à mon avis, ne va pas durer plus longtemps qu'Avengers Initiative, par exemple. Ce sera déjà pas mal, d'ailleurs, parce qu'Avengers Initiative, je crois, fait plus de 2 ans.
Ouais, il a fait 30 et quelques numéros avant de s'arrêter pour Siege. Enfin, au moment du Heroic Age.
Ouais, donc moi, je pense que Avengers Academy pourrait encore durer 1 an. Et ce que j'espère surtout, c'est que peut-être un jour, Christos Engage, même si là il n'était pas non plus super inspiré, je pense qu'il avait un petit peu les mains liées, j'espère qu'un jour on le verra sur du Spider-Man, du vrai Spider-Man, quoi, parce que là, bon, c'est plus du Avengers Academy, quoi, finalement. Hein. Bon, ça reste sympathique, c'est vraiment pas la lecture obligatoire, on peut vraiment zapper cet arc, surtout si on ne s'intéresse pas du tout à l'Avengers Academy. Il reste néanmoins un backup, écrit par Frank Thierry.
Backups qui d'ailleurs vont disparaître. Hein.
Oui.
Les backups vont disparaître et le prix va rester à 3,99.
Enfin, il y a deux backups d'ailleurs. Excuse-moi, il y a deux backups. Hein.
On sait qu'actuellement, enfin, les histoires font un peu plus de pages puisqu'il y a le backup qui font en général 8 pages. Mmh. Et justement, Alonso a annoncé que... Ou était-ce Tom Brevoort ? Je ne sais plus. Non, je crois que c'est Tom Brevoort qui a annoncé que le prix allait rester à 3,99 mais que les backups allaient disparaître.
D'accord. Bah, j'avais pas vu passer l'info.
Drôle de comportement quand on sait que DC déjà a réduit ses prix et continue de lutter pour vendre tout autant.
Bon, bah on verra si ça vaut le coup.
Excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'est vrai que j'y ai repensé du coup quand tu as parlé du backup.
Ouais, alors on a du Infested, troisième partie, donc c'est un tout petit backup de 2 pages, je crois, 2-3 pages, par Slott et je crois que ça s'appelle Cruz au dessin. Non, Rios, excuse-moi. Rios et Rodriguez à l'ancrage. Alors là, vraiment pas grand chose à dire. D'après ce que j'ai compris, c'est lié sans doute à Fear Itself.
Ou serait-ce pour nous préparer Infestation
à Spider Island Infested. Mais oui, justement, j'ai pas compris au fait parce que c'est vraiment sur 2 pages. Je vois pas trop le rapport en fait. Bon, c'est vraiment une histoire.
Relire tous les backups d'un coup ouais. Pour tout comprendre.
En tout cas, on ne voit pas signe de cet ennemi qui est de retour. Je sais pas si je peux le nommer parce que ça fait quand même quelques semaines maintenant.
Oui.
Oui, mais le chacal est de retour, et apparemment ce serait donc le chacal qui va être responsable de Spider Island. Je pense que j'en parlerai quand ça sortira, puisque ça risque d'être assez intéressant.
On a vu quelques teasers passer, notamment une Mary Jane avec des pouvoirs.
Oui, bon alors après faut voir dans l'exécution ce que ça donne. Autre petit backup, avec les origines d'un nouvel ennemi, peut-on dire, de Spider-Man, qui s'appelle Magnetic Man, alors franchement... Magnetic Man, une sorte de Shocker, quoi, en fait. Avec des espèces de gants magnétiques.
Déjà un vieux nom pourri, quoi.
Ouais, Magnetic Man. En plus, on a Magneto, donc là, on a Magnetic Man. Frank Thierry au scénario. Alors, ils ont sorti Frank Thierry. Frank Thierry ouais, du placard. Frank Thierry qui avait fait des épisodes pas trop mal d'Iron Man. Enfin, j'avais trouvé ça sympa, il y a quelques années.
Oui. Dernièrement, il avait écrit une... Enfin, dernièrement, il a peut-être fait autre chose depuis, hein. Je sais pas, mais je sais qu'il avait écrit une mini-série pendant Dark Reign, tu sais, toutes les mini-séries Dark Reign qu'on a vues en Big Book en français.
Oui, enfin, c'est quelque chose qu'on ressort souvent pour faire des mini-séries, des backups, je dirais des petites choses à côté, hein, c'est pas pour minimiser son travail, mais je veux dire, c'est pas l'auteur le plus en vue. Et voilà, donc bon, un petit backup qui n'apporte pas grand chose. Je pense que ce Magnetic Man, on n'est pas prêt de le revoir, à part si Frank Thierry revient écrire du Spider-Man. Les dessins sont de Javier Rodriguez. Donc aussi bien les deux backups sont vraiment dans un style très très indé. Voilà.
Mais Rios dont tu parlais tout à l'heure, je pense que c'est Mario ça.
Mais ouais, je pense. Je pense en tout cas c'est un style vraiment super indé.
Moi j'accroche pas du tout d'ailleurs.
Donc en tout cas, Un numéro d'Amazing Spider-Man, malheureusement, qui est un pass. Un check-it pour les fans de Avengers Academy, je vais dire. Voilà.
Dont tu fais partie, quand même.
Dont je fais partie, bien sûr. Bien sûr. Ça reste sympa, mais c'est loin d'être indispensable, hein, il faut être honnête. Voilà.
Ok. Bon, on va passer à la dernière review de la semaine.
Et quelle review ?
Oui, car on va aller chez Boom Comics, ou plutôt chez Kaboom.
Kaboom !
Oui. Et oui. Puisque c'est la sortie de DuckTales numéro 1. Alors, DuckTales, bah, c'est la bande à Picsou.
Ha ! Riri, Fifi, Loulou, Mickey, Donald et Picsou.
Ouais, enfin, y a pas Mickey, là.
Non, mais c'est vrai, non, mais c'était juste pour la petite comptine.
Et donc, c'est écrit par Warren Spector, qui a scénarisé un jeu vidéo de Mickey qui s'appelait Epic Mickey. Alors, je ne connais pas du tout.
Attends, Spector, c'était pas le nom que t'avais sorti tout au début ? Non, c'était Proctor ? Oh, je sais plus.
Non, c'était Captor.
Captor. Bon, très bien. Eh bien, c'était totalement inutile. Merci, merci Honey Bunny.
Et au dessin, on retrouve Lionel Castellani, José Massaroli et Magic Eye Studios.
Ouais.
Alors, au niveau du dessin, bah, c'est du Walt Disney, quoi. C'est du Walt Disney. Par contre, on sent que Lionel Castellani n'a pas fait toutes les planches. Il y a 2-3 planches où il y a Riri, Fifi et Loulou qui ont des yeux qui se barrent un peu en couille. Honnêtement, c'est limite choquant puisque bah, on est habitué à un style qui est vraiment fluide, qui est vraiment ce qu'on a l'habitude de voir quand on regarde un comic Disney. Et d'un seul coup, on a des dessins qui sont un peu plus approximatifs et ça choque, quoi.
D'accord, ouais, on n'est pas dans le Disney habituel, quoi.
Bah, c'est surtout vers la fin, c'est 2-3 cases qui sont bizarres, quoi. On voit vraiment des yeux qui sont pas habituels.
D'accord.
Qui se disent un peu merde l'un à l'autre, quoi.
D'accord.
Alors, au niveau de l'histoire, ça commence sur une exposition d'artefacts que Picsou a accumulé tout au long de sa vie. Et donc, bien sûr, tel Picsou, tel un grand foufou, il saute de l'avion et atterrit en parachute devant l'exposition pour faire un événement et donc attirer les gens et donc faire un maximum d'entrées et plein de fric.
Bah, et un petit peu comme Batman, Bruce Wayne, hein. Je le verrais très bien faire ça.
Bon, on a c'est, la bande. Hein,
ces millionnaires sont tous excentriques.
Oui, c'est vrai. On a toute la bande, hein, habituelle de la bande à Picsou qui est là. Donc on a, bien sûr, bon, je vais vous donner les noms français parce que c'est vrai qu'on est plus habitué en France à entendre les noms français et les noms américains ne parlent pas forcément.
Ouais.
On a Flagada Jones, on a Riri Fifi Loulou, on a Zaza aussi qui est là.
Ça me fait marrer de t'entendre parler de tout ça, tu sais. Ça change de, y a Kyle Rayner, y a Greg Garner, là y a Zaza, Riri Fifi Loulou.
Et puis on a aussi un personnage que les Américains ne connaissent pas forcément très bien, Flair Sou, que nous on connaît beaucoup en France puisqu'il a été beaucoup utilisé dans les Walt Disney italiens, en tout cas les bandes dessinées faites par les Italiens, mais aux États-Unis c'est un personnage qui a été très peu utilisé.
C'est pas Gontran le... Non, c'est pas, n'a rien à voir.
Non, c'est justement Gontran, c'est l'ennemi généralement américain,
ouais.
Tandis que Flair Sou c'est plus l'ennemi européen.
D'accord.
Utilisé dans les comics faits par les Italiens.
D'accord, bah tiens, tu m'apprends des choses.
Et qui s'appelle Rocker Duck en anglais, donc.
Ah d'accord, ouais ouais.
Une liaison à Rockefeller.
D'accord, non, mais très bien.
Alors bon, Picsou fait faire le tour de l'exposition à Flair Sou et à ses neveux ainsi que Zaza. Et Zaza est assez triste de voir que il a quand même pas mal roublardé les gens pour avoir ses artefacts. Et on revient sur pas mal d'artefacts dont Karl Barks avait parlé dans ses histoires. Et donc là, on sent qu'il y a eu des recherches de fait et que voilà, c'est on s'inspire de toute la continuité des épisodes de Walt Disney, des épisodes de Picsou qu'il y a pu avoir. Ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, Zaza est pas très contente et elle le fait payer à Riri, Fifi, Lou et Flagada Jones le soir, pendant qu'il y a le gala de charité auquel eux n'assistent pas parce qu'ils s'en foutent. Ils jouent à D&D. Oui, D&D, Duck and Danger. J'ai trouvé l'allusion très drôle, quoi.
D'accord. Ok, oui, d'accord.
Oui, Donjons et Dragons.
Oui, oui, d'accord, Duck and Danger, oui, oui, bien sûr.
Et donc, elle force les Castors Junior à regarder toujours leur manuel, bien sûr, parce qu'ils ne font rien sans regarder leur manuel, à voir si c'est pas finalement un peu volé.
Je t'avais dit qu'on allait parler de Castor.
Oui, voilà, je savais que tu faisais l'allusion à ça tout à l'heure. Voir si c'est pas un peu volé, et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et dans ce cas-là, ils se rendent bien compte qu'il faudrait rendre les artefacts. Et donc, ils proposent à Picsou d'aller rendre les artefacts. Picsou, bien sûr, est hors de lui. Mais quelqu'un avait épié la conversation de la veille, et c'est Flair Sou, et qui annonce en grande conférence de presse à la télé que lui va rendre ses artefacts et qu'il met au défi son plus grand rival de le faire.
Ah d'accord.
Donc, Picsou n'a pas d'autre choix que s'exécuter, et donc il lui dit clairement, pour tout artefact que tu vas rendre, et ben moi j'en rendrai deux. Puisque c'est Picsou, faut bien sûr qu'il fasse tout dans le plus grand. Et donc les voilà partis rendre un artefact, et bien sûr, Flair Sou a un plan.
Ah oui.
Normal. Il engage notamment les Raptou, ainsi que d'autres criminels, qui, je pense, sont apparus dans d'autres histoires, peut-être même dans les dessins animés de la bande à Picsou. Je les ai pas tous reconnus, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de recherches, donc voilà. Mais je
D'accord, donc
pense
il y
que
a
ce sont
beaucoup de
les.
références à cet univers, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est pas fait comme ça sur aucune base, quoi.
D'accord.
Et donc ils vont essayer de lui dérober avant qu'il les rende.
Et c'est
Et
en
on est
combien de pages
parti.
tout ça, en fait?
Ben, c'est à peu près en. Je dirais 24 pages, je crois, à peu près.
Ah ouais, d'accord.
Mais il y a 32 pages en tout avec les pubs, hein, comme d'habitude. Il y a beaucoup de textes. Beaucoup, beaucoup de textes. J'ai eu vraiment l'impression de relire des anciens Mickey Parade de ma jeunesse, de Picsou Magazine. Enfin, c'est vraiment l'ambiance d'un comic Walt Disney tel que je la conçois et tel mes souvenirs de gosse m'en font rappeler, quoi.
D'accord, donc ça plairait à Kiwi, par exemple, qui est
Ah ben, je
vraiment fan.
pense, oui. Je pense, oui.
Et on peut peut-être dire aussi, puisque c'est officiel en plus, que au LCF, cette année, il y aura quand même Don Rosa
Don
comme
Rosa.
invité d'honneur en plus.
C'est pas rien.
Oui, alors donc pour tous les fans de Picsou, Donald, etc. Je dis pas de bêtises d'ailleurs, je crois qu'il a fait aussi du Donald. Au pire, Kiwi me corrigera. Mais en tout cas,
Avec
voilà.
un martinet sur les fesses, bien
Oui,
sûr.
là au moins, oui, là pour ça, oui. En tout cas, voilà, il sera là, c'est un monument, un
Ah,
mythe,
complètement.
hein, de la bande dessinée. Donc, eh bien, avoir la chance de rencontrer ce monsieur au Lille Comics Festival, ce n'est pas rien. Donc, pensez à
Venez.
venir au Lille
Venez au
Comics
moment venu.
Festival. Venez, venez au
Venez au
Lille Comics
moment venu.
Festival. Ce sera en novembre, donc on en reparlera d'ici là.
Bien évidemment.
Oui.
Donc, bah, franchement, moi, j'ai passé un super moment. Il y a de l'aventure, il y a des petites scènes de dialogue très drôles, des pics s'envoient les uns les autres. Bon, j'ai omis certains passages, hein, qui ne sont pas hyper importants à l'histoire, mais qui font mouche, comme dans tout bon épisode de la bande à Picsou, ou tout bon comique de Donald, de Picsou, etc. C'est franchement super sympa, et moi, je dis que c'est un bail. D'autant plus qu'il reste très peu de licences à Boom. Actuellement, il en reste Chip and Dale, donc Tic et Tac, Darkwing Duck, il en reste justement DuckTales, et puis Uncle Scrooge, et Walt Disney Comics, je crois. Il en reste peut-être un autre, mais je ne sais plus. Et vraiment, encourager la licence Boom et Disney, parce qu'ils font de très bonnes choses. On verra ce que vont donner les produits Disney chez Marvel, mais je ne sais pas si on atteindra cette qualité-là.
Ouais, en tout cas ça donne
Et
envie
puis,
tout ça.
ouais, puis bah, c'est vraiment des
C'est.
souvenirs d'enfance, quoi.
Ouais, non mais ça fait plaisir de changer un petit peu de registre et de se replonger là-dedans le soir tranquillement au chaud. Enfin au chaud. C'est pas. En ce moment il fait pas froid non plus, hein, mais bon.
Alors, ça prend pas la tête, mais comme je dis, il y a beaucoup de lectures et moi, il m'a fallu du temps pour le lire. Honnêtement, j'ai dû passer un bon quart d'heure, 20 minutes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire.
Mais ça
Enfin,
fait du
beaucoup,
bien, ça
beaucoup de
fait du
choses à
bien,
lire.
ça.
Mais c'est super agréable. On n'a pas un comic qu'on a lu en 5 minutes et qu'on met sur une étagère et qu'on oublie aussi vite. Donc, c'est vraiment sympa. Le petit défaut, bien sûr, bah, c'est pour nous Français. S'adapter aux noms US, qui ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est toujours le petit truc qui fait que, bah, on n'est pas dans les souvenirs complètement, en tout cas dans les souvenirs d'enfance, parce que on n'a pas les noms auxquels on est habitué. Mais c'est franchement un défaut réellement mineur comparé à la qualité du reste.
D'accord.
Voilà, donc un bail.
Ok.
Et puis bah
Et
c'est tout pour cette semaine.
je l'ai pas pris, mais si je le vois, je le prends.
Ah ouais, franchement, je te le conseille. Franchement, tu verras, c'est un bon moment, quoi. Bah, surtout si
Ah oui, bah
tu as
ça
aimé
prend
ce genre
l'annonce,
de
quoi. Oui,
choses dans ta
bien
jeunesse,
sûr.
quoi.
Disney Club le dimanche matin.
Bien sûr.
Super Balou, la bande à Picsou, Tic et Tac, Ranger du Risque.
En tout cas,
Et
les gens
d'autres?
de notre âge, oui, s'en rappellent, oui, c'est clair. Et puis, bah, donc oui, c'est la fin de notre émission de cette semaine.
Oui, c'est alors, eh ben rappelle donc le où nous retrouver.
Eh bien, sur Facebook, c'est chaud, putain, c'est vraiment dur cette semaine. Sur Facebook, sur Twitter, sur Media Comics, bien sûr, et puis sur le site, vous pouvez nous laisser des commentaires. Et puis les mails, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver, je te promets, je vais arriver à finir.
Ouais.
Le mail, l'adresse c'est podcast@comiccity.fr. On a l'impression qu'on est bourré dans cet épisode. Alors qu'on n'a pas
Non,
bu une goutte, il est tout juste 8h du soir.
j'ai bu que du coca aujourd'hui.
On n'a pas commencé à boire l'apéro puisqu'on enregistre quand même.
Tout à fait.
Puisqu'on prend des apéros virtuels par Skype.
Ouais. Des
On va se
drink and
faire.
draw.
On va se faire une super réputation. Et puis bah, voilà, je ne sais plus quoi dire. Vous retrouvez les épisodes sur iTunes ou encore sur le site. Puis bah, le mot de la fin.
Et attends, et si vous voulez tout savoir sur Lino, vous pouvez ajouter Steve à votre Facebook.
Ah oui,
Voilà.
le super Lino.
Ouais.
magnifique que
Et
j'ai posé
oui,
dans le champ.
le mot de la fin, bah écoute. Alors écoute bien, fiston. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Lest those who worship evil's might, beware my power, Green Lantern Light. Bon, avant j'étais Green Lantern dans ma prime jeunesse, j'ai rencontré Abin Sur. Il m'a dit, tiens, prends cette bague et démerde-toi. Alors voilà, et maintenant je te la file. Fais-en bon usage. Allez, meilleur des comics.